séminaire est parmi nous depuis ce jeudi pour nous apporter un ensemble d'enseignements sur des sujets qu'il a travaillés, sur lesquels il a publié. Vous trouverez un certain nombre de ses livres disponibles au stand Certitude et également un certain nombre d'articles. Timothée et moi-même sommes d'abord frères en Christ et puis camarades, nous avons été dans le cours de nos études à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Et Timothée est allé ces 5-6 dernières années à Madagascar pour vivre son ministère d'enseignant à l'Institut de théologie supérieure à Tana, donc la capitale. Donc, je connais aussi son épouse Delphine ainsi que leurs enfants, Eve et Ethan. Donc, nous avons été pasteurs dans la même région, toi à Saint-Étienne, moi à Grenoble. Et nous nous retrouvons depuis peu dans le cadre du comité de réflexion théologique au sein de notre fédération. Et nous nous réjouissons d'avoir au sein de notre corps des théologiens aussi comme Timothée, qui a un cœur pour transmettre de manière très simple, très accessible, comme vous l'avez vu pendant ces soirées du Carrefour de l'enseignement, vraiment la parole de Dieu avec un ancrage, avec un fondement. Et nous voulons prier, Seigneur, ce matin pour que la parole que tu as posée sur le cœur de Timothée, ben voilà, que ton Esprit Saint, maintenant, nous donne de l'accueillir. Que Timothée soit encore cet instrument que tu veux utiliser pour rendre ministère, pour l'édification de ton Église, au nom de Jésus. Amen.
Merci, Paul. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que ça va, vous n'êtes pas trop fatigués de m'entendre, pour ceux qui sont là depuis jeudi soir. Ça tombe bien parce que le thème de ce message, c'est « Il est l'heure de se réveiller ». Il est l'heure de se réveiller. C'est ce que dit ce texte qu'on va voir tout à l'heure à la fin de Romains 13. C'est ce que dit la parole de Dieu. Si vous avez dans la prédication votre voisin qui s'endort un peu, vous pouvez lui rappeler « C'est l'heure de se réveiller ». Et cette exhortation arrive à la fin d'une section, Romains 12 et 13, qui est consacrée à l'attitude que nous sommes appelés à avoir dans la société dans laquelle nous vivons, dans une société qui n'est pas une société chrétienne, à l'époque où Paul écrit aux Romains, ils étaient à Rome, parmi les païens. Et comment dans ce cadre-là on peut agir, on peut vivre, on peut témoigner dans une société qui est marquée par le péché et le rejet de Jésus-Christ. Et donc dans ces chapitres, Paul nous laisse quelques conseils, pas forcément évidents à mettre en place. Par exemple, bénissez ceux qui vous persécutent, dit-il. Faites tout pour vivre en paix avec tout le monde. Ouais, la barre est haute. Si on vous fait du mal, alors faites du bien en retour. Soyez vainqueurs du mal par le bien. C'est un de mes versets préférés. Soyez vainqueurs du mal par le bien. Soumettez-vous aux autorités. Reconnaissez même qu'elles sont au service de Dieu, dit Paul. Il faut se rappeler, à des Romains qui persécutaient les chrétiens. On n'est pas avec des gens qui proclamaient Jésus-Christ. Ah oui, autre recommandation très spirituelle que Paul nous laisse au chapitre 13, que vous avez tous surligné dans vos Bibles. Payez vos impôts. Et il conclut, n'ayez de dette envers personne, si ce n'est une dette d'amour. Aime ton prochain comme toi-même, car l'amour, conclut-il au verset 10, c'est le résumé de toute la loi. Voilà l'attitude qui devrait être celle du disciple de Jésus-Christ dans la vie de tous les jours. Et c'est ça, et c'est à ce moment-là qu'arrive le passage sur lequel on va s'arrêter ce matin. Romains 13, versets 11 à 14. Ouais, ça s'affiche, je ne sais pas si vous avez arrivé à lire, sinon vous avez le droit de prendre votre Bible aussi. Romains 13, verset 11. Paul dit, faites ceci, c'est-à-dire tout ce qui vient d'être dit, d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, de vous réveiller. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit est avancée, le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons-nous de tout ce qu'il se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de lumière. Vivons comme il convient en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Un beau texte qui nous invite à vivre dans ce sens-là, le réveil. Il est l'heure de se réveiller. Et quand on parle du réveil, souvent on pense à ces grands réveils du passé, aux conversions par milliers, à l'action puissante du Saint-Esprit, les miracles en tout genre. Et on se dit, ouais, on voudrait vivre la même chose. Seigneur, envoie ton réveil. Je pense que c'est une réalité. Voilà, il y a des mouvements comme ça que le Seigneur fait dans l'histoire. Mais dans ce texte-là, ce n'est pas de ça que ça parle. Paul ne nous dit pas aspirer au réveil. Dans ce texte, il nous dit, il est l'heure de vous réveiller. Il est l'heure de sortir de votre sommeil. C'est pas Dieu qui doit se réveiller. C'est nous qui devons nous décider de nous réveiller. Tu peux dire à ton voisin, hey, oh, il est l'heure de se réveiller. Alors, voilà, il est l'heure de se réveiller, mais comment ? Comment ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment entrer dans son réveil ? Paul utilise ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, une image très habituelle, qui est très ancrée dans notre vie quotidienne, quelque chose qu'on fait tous les jours, c'est l'image de quelqu'un qui se lève le matin. Vous levez tous le matin, j'espère, sauf si peut-être certains sont malades parfois, mais quand vous êtes en tout cas en forme. Et quelle est la première chose que vous faites le matin lorsque vous vous réveillez ? Vous ouvrez les yeux, n'est-ce pas, normalement ? Alors peut-être bien parce que votre réveil matin vous y a persuadé, parfois on a du mal à ouvrir les yeux, c'est pas toujours évident. Mais vous ouvrez les yeux et ensuite vous regardez l'heure qu'il est. Je ne sais pas si vous faites ça, mais souvent on regarde l'heure qu'il est, surtout si c'est un jour où on doit aller au travail. Et là vous vous dites, ah, il est grand temps de se réveiller. Et c'est ce que le verset 11, début du verset 12, nous invite à faire. Ouvrir les yeux et voir l'heure qu'il est. Et se dire, il est l'heure de se réveiller. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce constat, qu'on a pris la décision de se réveiller, on passe à l'action, on va se lever. Et on va notamment enlever notre pyjama, nos habits de nuit, et revêtir nos vêtements de lumière, nos vêtements du jour. Et c'est ce que les versets 12 à 14 nous invitent à faire. Et on va détailler un peu ça. Première étape, ouvrir les yeux. Je vais à l'envers dans ma... Ouvrir les yeux et réaliser l'heure qu'il est sur l'horloge de Dieu. L'apôtre Paul dit, vous savez en quel temps nous sommes. Je trouve qu'il est parfois un peu optimiste, mais voilà. Vous savez en quel temps nous sommes, dit-il. Et quel est ce temps-là ? La nuit tire à sa fin, le jour va se lever. La nuit est avancée et le jour approche. Vous savez, à l'époque du Nouveau Testament, il n'y avait pas d'horloge ou de smartphone pour vous donner l'heure. Quand vous ouvriez les yeux, alors qu'il faisait nuit en particulier. Il y avait des cadrans solaires, mais ça ne marche pas trop bien la nuit. Et pourtant, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on a plusieurs textes du Nouveau Testament qui évoquent des personnes qui sortent tôt le matin alors qu'il faisait encore nuit. On pourrait se demander, mais comment ils savent qu'on est tôt le matin ? Ils n'avaient pas de montre à l'époque, alors qu'il faisait encore nuit. Quand j'étais à Madagascar, on a eu l'occasion de voyager jusqu'à la côte est du pays. Et un matin, je me suis décidé à me lever très tôt, parce que le soleil se lève à l'est, vous savez, pour aller contempler le lever de soleil sur l'océan. Et c'est là que j'ai pris cette photo. Vous voyez cette photo du soleil qui se lève. Et lorsque le soleil se lève, il y a ce moment où on voit une lumière qui pointe à l'horizon. Le soleil n'est pas encore visible. On ne voit pas encore le soleil sur cette photo. Le jour ne s'est pas encore levé. Mais vous voyez l'horizon s'illuminer. Et vous savez que le soleil va bientôt se lever. Et je crois que c'est cette image que Paul utilise dans ce texte. La nuit tire à sa fin, le jour va se lever. Il nous invite à lever les yeux, à regarder le ciel et à voir. Par cette image, Paul nous fait comprendre que nous vivons la période située entre la première venue et le retour de Jésus. Et la Bible dit que Jésus est la lumière du monde, hein, que la lumière est venue dans le monde. Et lorsque nous regardons à Jésus, nous voyons cette lumière à l'horizon. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Le livre de l'Apocalypse parle de la réalité dernière, finale, qui nous attend dans la nouvelle création, comme d'une ville où il n'y a plus besoin de soleil. Pourquoi ? Parce que la gloire de Dieu l'éclaire et sa lampe, c'est l'agneau, c'est-à-dire Jésus. En tant que chrétiens, nous espérons, j'espère que c'est votre espérance, que Jésus reviendra et qu'il revient bientôt. Nous attendons ce moment où Dieu brillera comme le soleil sur toute la création renouvelée. Où il n'y aura plus de, comme on l'a vu, de souffrance, de maladie, de détresse, de conflit, de violence. Mais oui, nous vivons encore dans un monde de ténèbres. Il fait encore nuit, c'est vrai. Ce que dit Paul, c'est encore la nuit. Mais nous qui contemplons déjà Christ, nous qui connaissons déjà Christ, nous contemplons déjà la lumière du monde. Et parce que nous avons vu cette lumière, nous savons que le soleil va finir par se lever. Jésus, le Messie annoncé par l'Ancien Testament, a déjà brillé. Il a déjà remporté la victoire sur le péché et sur Satan à la croix. On est dans cette semaine de Pâques. Et on va se rappeler encore de cela toute cette semaine. Et on va se souvenir aussi dimanche prochain qu'après la nuit de sa mort, est venu un matin, tôt le matin, alors qu'il faisait encore, quoi, d'ailleurs, c'est encore, il faisait encore nuit, les femmes sont venues au tombeau, et Jésus était ressuscité, il s'était réveillé de la mort. Jésus était déjà réveillé d'entre les morts, ressuscité. Il a été déjà élevé à la droite du Père sur son siège royal. Il est déjà monté au ciel, et le Saint-Esprit a déjà été répandu sur le peuple de Dieu. On est déjà sauvés. Et en même temps, comme le dit Paul, notre salut est encore à venir. On a vu ça quand on a parlé aussi des miracles, le déjà et le pas encore. On vit encore dans un monde où règnent les ténèbres. Je pense qu'on est tous conscients, les guerres, les famines, les catastrophes naturelles sont toujours là. Elles font toujours la une, malheureusement, de nos journaux. Notre mal de dos est parfois encore là. Les soucis familiaux ne sont pas envolés. Nous ne vivons pas encore dans une terre renouvelée où il n'y a plus de souffrance, où il n'y a plus de mort. Nous ne vivons pas encore là où il est possible de voir Dieu face à face, en pleine lumière. Nous ne vivons pas encore le salut dans sa plénitude. Il fait encore nuit autour de nous. Le retour de Jésus n'est pas encore arrivé. Mais nous savons que ce jour est proche. Et comment le savons-nous ? Parce que nous avons vu la lumière du monde. Notre espérance s'appuie sur ce que Dieu a déjà accompli en Jésus-Christ. Et Paul nous dit, voyez la lumière. Voyez la lumière de Jésus. La nuit touche à sa fin. Le jour est proche. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre en fixant nos regards, non pas sur la nuit qui nous entoure, sur ce monde un peu fade, comme disait Paul tout à l'heure, mais sur le jour qui vient. Oui, c'est encore la nuit, mais le jour vient. Est-ce qu'on a réalisé en quel temps nous sommes, comme nous le dit Paul ? Alors si on a compris que la nuit touche à sa fin, nous dit l'apôtre Paul, il est grand temps de se réveiller. C'est le matin, c'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, dit l'apôtre Paul, il est l'heure de se réveiller. Le radio-réveil de la parole de Dieu sonne sans interruption depuis 2000 ans maintenant pour nous indiquer qu'il est grand temps de sortir de notre sommeil. C'est l'heure. Le soleil va bientôt se lever. C'est le moment de se réveiller. Et dans un monde qui reste endormi, plongé dans la nuit, nous sommes appelés à manifester prophétiquement le jour qui vient. Nous sommes appelés à proclamer par nos vies que le salut est tout proche. Est-ce que c'est notre attitude ? Avouez que parfois, ce n'est pas forcément le message que nous véhiculons. On va annoncer ou rappeler la dégradation inéluctable de notre monde, la recrudescence du péché, la multiplication des catastrophes, des guerres. Parfois, on n'a pas de difficulté à parler de la nuit. Hein. Alors, la Bible parle aussi de ça. C'est pas quelque chose qu'on devrait absolument ne pas parler. Les catastrophes en tout genre font partie des signes de la fin. Hein. Mais ceux qui nous entourent, vous savez, ils n'ont pas besoin de nous pour avoir peur des catastrophes à venir. Notre monde n'a pas besoin de nous pour savoir que tout va mal. France Info leur rappelle tous les 10 minutes. Nous ne sommes pas appelés à être des témoins de la nuit. Nous sommes appelés à être des témoins du jour qui vient. Et cette réalité-là, nos médias sont incapables de l'annoncer. Nos économistes ne peuvent pas le prévoir, nos prévisionnistes ne peuvent pas le calculer. C'est à nous d'être témoins de cela. Et au chapitre précédent de notre passage, Paul nous dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. » Autrement dit, ne pensez pas comme tout le monde pense, hein, mais laissez le Saint-Esprit transformer votre façon de voir le monde. Ne laissons pas les médias nous faire croire qu'il n'y a pas d'espérance. Ne laissons pas la société nous embarquer dans cette morosité ambiante. Laissons plutôt le Saint-Esprit venir changer nos pensées, transformer notre intelligence pour que nous voyions par la foi le jour qui se lève. Est-ce que vous voyez cette lumière à l'horizon? Est-ce que vous entendez le réveil sonner? C'est l'heure, ouvre les yeux! C'est l'heure, réveille-toi! Le matin arrive, le jour va se lever, il est temps de sortir de votre sommeil. C'est le réveil de la parole de Dieu. Laissons-le résonner au fond de nous. Laissons le Saint-Esprit nous faire entendre sa voix. Laissons-le nous réveiller. Ça, c'est la première étape. Ouvrir les yeux et prendre conscience que c'est l'heure de se réveiller. Hein ? Mais il ne faut pas s'arrêter là. Deuxième étape, il faut se lever. Enlever son pyjama et mettre l'armure de lumière. C'est ce que dit le texte qu'on a lu tout à l'heure. Nous sommes invités à vivre comme des témoins du jour qui vient, à nous comporter comme en plein jour, et si notre monde est dans la nuit, notre vie doit être celle du jour. C'est ça notre rôle dans ce monde, cette dimension prophétique de notre vécu. Nous sommes des éclaireurs dans la nuit. Notre vie est appelée à manifester la lumière du Christ dans un monde de ténèbres. Nos actions, nos paroles, tout ce que nous sommes doit être comme un grand panneau lumineux qui dit « Regardez, regardez à Christ, regardez, le jour arrive, la lumière vient. » Mais avant de revêtir notre armure de lumière, il faut aussi se débarrasser de notre pyjama. C'est la fin de la nuit, le jour va se lever, dit le texte. « Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres, dit Paul. » Débarrassons-nous de tout ce qui est de la nuit. Fini les pyjamas. Et l'apôtre Paul mentionne quelques actes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qui se font souvent un peu dans la nuit ou dans l'obscurité. Orgie, beuverie, débauche, immoralité, mais aussi jalousie, querelle. Des actes un peu qui se font cachés dans l'ombre lorsqu'il fait sombre. Et au verset 14, Paul montre que les œuvres des ténèbres sont caractéristiques de l'homme charnel, c'est-à-dire de l'homme sans Christ. Celui qui laisse ses pulsions, ses désirs contrôler sa vie. C'est ça, c'est l'homme endormi, qui se préoccupe que de satisfaire les désirs de son être pécheur. C'est l'être sans Christ qui se laisse manipuler par ses pulsions sans se poser de questions sur ce qui est bien ou mal. C'est l'homme moderne qui se croit libre, alors qu'en fait, il est esclave de ses désirs, esclave de son péché. Je fais ce que je veux, sans me poser de questions. Il suffit de regarder les infos pour voir où ça nous mène. Et cette attitude, c'est celle de l'homme endormi, l'homme de la nuit. Mais nous qui sommes en Christ, nous sommes invités à nous réveiller, parce que le matin vient. Il est temps de se débarrasser de notre pyjama, de plus laisser nos désirs insatisfaits nous manipuler, de plus laisser la télé, l'internet, les smartphones nous rendre complètement avachis, scotchés à notre canapé, sans pouvoir émettre plus grand-chose qu'une seule pensée cohérente, si ce n'est beau, il n'y a plus de chips. Il est temps de se débarrasser de notre pyjama. Hein. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a libérés de l'esclavage du péché. Ce n'est pas pour qu'on y retourne. Il a payé de sa vie notre libération. Alors c'est une belle exhortation, mais on sait que ce n'est pas toujours facile hein, à mettre en pratique. On a toujours des luttes, on a tous des luttes, encore des choses qui restent, qui on essaye vraiment de se débarrasser. Et on a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour ça, mais on pourrait se dire, bah, comment faire pour vivre vraiment libre en Jésus-Christ ? Je crois que ce n'est pas la seule piste, il y aurait toute une prédication qu'on pourrait faire là-dessus, mais une des choses que Paul va nous dire dans ce texte, la parole de Dieu, c'est qu'une des manières de le faire, c'est de revêtir l'armure de lumière. C'est en partant au combat que nous pourrons le mieux lutter contre le péché qui nous colle à la peau. C'est en faisant le bien que nous apprendrons à ne plus faire le mal. C'est en aimant que nous apprendrons à vaincre la haine. C'est dans l'action que nous pourrons lutter contre le sommeil. Et Paul nous invite donc à remplacer notre pyjama par une armure de lumière. Vous voyez bien le terme, les habits du croyant, ce n'est pas des vêtements confortables, jeans, baskets, mais c'est des vêtements pour le combat, une armure. Mais remarquez que l'armure, ici, est une armure de lumière. Il ne s'agit pas de lutter contre quelque chose, mais de lutter, ou sinon contre les puissances des ténèbres, mais de lutter pour la lumière. Dans la nuit environnante, nous devons proclamer que le jour vient en manifestant la lumière que Christ nous donne par son esprit. Quelques versets plus haut, Paul avait déjà invité ses lecteurs à un tel combat. Romains 12, 21, il dit, ce verset que j'ai déjà cité tout à l'heure, mais j'aime beaucoup, « Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais sois vainqueur du mal. » Comment ? Par le bien. Et ça, je trouve extraordinaire quand même. C'est la Bible nous invite pas seulement à ne pas faire le mal. Elle nous invite à vaincre le mal par le bien. Et ça change tout. En tant que croyant, on n'est pas appelé à nous cloîtrer dans notre abri anti-méchant en attendant que la fin vienne. Nous sommes appelés à partir au combat face au mal environnant. Et nos armes ne sont pas des kalachnikovs, ce ne sont pas des mitraillettes, mais c'est la bénédiction, c'est l'hospitalité, c'est l'amour du prochain. C'est de ça que Paul parle dans tous ces chapitres-là. Nous sommes invités à devenir des pratiquants acharnés du bien. Alors c'est vrai qu'un tel combat n'est pas sans risque. Hein, l'ennemi est puissant et peut parfois nous faire croire que ça ne marchera jamais. Hein. Mais la parole de Dieu nous l'affirme. C'est en pratiquant le bien que nous serons vainqueurs du mal. Alors on dira, ouais, bon, c'est un peu utopique tout ça, ces histoires de bien, de mal. C'est chez Walt Disney ça, non ? C'est un conte de fées. Dans la réalité, c'est pas si simple. Hein. Mais c'est vrai que parfois, je crois que on peut être un peu découragé, ça peut arriver. Mais il faut se rappeler qu'il y a eu des exemples concrets dans l'histoire de l'humanité qui montrent que le bien peut vaincre le mal. Des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire parce qu'ils ont choisi de répondre à la haine par l'amour, à la violence par la non-violence. Prenez par exemple, vous appelez le centre, comment ? Martin Luther King. Martin Luther King, c'était un pasteur baptiste, noir américain, et son combat n'a pas été vain. Un homme qui a contribué à faire réellement tomber des barrières entre les noirs et les blancs dans la société américaine. Et pourtant, Martin Luther King n'a pas pris les armes, il n'a pas alimenté la haine, son combat pour la justice était marqué par l'amour de l'ennemi. C'était vraiment au cœur de son message. Il était convaincu que, il disait, il a écrit ceci, « L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour le peut. » Alors c'est vrai, le combat de Martin Luther King lui a coûté la vie. Hein, il a été assassiné. Mais il n'est pas mort en vain. Ça a été un artisan de paix qui a contribué à faire tomber les murs injustes de la ségrégation. Voilà, vaincre le mal par le bien, ce n'est pas une utopie. Et j'espère que quand vous vous rappelez du nom que vous avez donné à votre église, c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur. D'être ces témoins de la lumière du Christ dans la société, autour de nous. Je crois que c'est ce que vous faites aussi un peu avec cette maison des parents. C'est comme ça le nom, hein, la maison qui accueille les familles de ceux qui viennent à l'hôpital. Et je crois que voilà, le Seigneur veut encore continuer d'utiliser le centre Martin Luther King pour être témoin de sa lumière dans ce monde. Mais on pourrait dire, Martin Luther King, il avait aussi ses défauts. Hein, il faut être réaliste, il avait ses défauts, il n'a pas toujours eu une morale totalement exemplaire. Et on se dit, oui, bon, voilà. Mais il y a un exemple bien plus important, une œuvre bien plus grandiose et définitive, l'œuvre de celui qui a changé le cours de l'humanité en choisissant de combattre le mal, comment ? Par l'amour, par le pardon. Et son nom, c'est Jésus. Notre Dieu a choisi de régler le problème du mal, comment ? En faisant le bien, en aimant. Alors que nous méritions la mort éternelle, l'enfer loin de Dieu, notre Seigneur a choisi de mettre les pieds sur terre. Il a choisi d'aimer ceux qu'il avait rejetés. Il a choisi d'aimer ceux qui le méprisaient, ceux qui l'insultaient. Et il n'a pas utilisé sa force infinie pour mettre un terme au mal. À l'inverse, il nous a aimés jusqu'au bout. Il s'est laissé arrêter. Il s'est laissé mettre à mort. Et c'est là, sur cette croix, dans la faiblesse la plus totale, qu'il a remporté la plus incroyable des victoires. Oui, notre Dieu a vaincu le mal par le bien. Et ça, ça a des conséquences pour toute l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'on sera de ceux qui marchent dans les traces de leur Sauveur ? Est-ce que nous serons des combattants du bien ? De ceux qui proclament la victoire du bien sur le mal acquise à la croix. Est-ce que nous serons de ceux qui revêtent l'armure de lumière qui nous est proposée ? Alors on pourrait se dire, la parole de Dieu, elle met quand même la barre assez haute hein, dans les relations. Là, porter la lumière dans ce monde, rendre le mal par le bien, être un citoyen exemplaire, aimant nos prochains. Dans la réalité, je ne sais pas vous, mais moi, je me dis, c'est pas toujours ça. Hein. Comment on peut relever ce défi qui nous est proposé ? Il me semble que le dernier verset propose une dernière piste de réflexion. Nous sommes appelés à revêtir Jésus-Christ. Revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous laissez plus entraîner par votre propre nature pour en satisfaire les désirs. Revêtez le Seigneur Jésus-Christ. C'est une belle image, hein. Tout est dit, tout est résumé. C'est la caractéristique du croyant réveillé. Il a revêtu Christ. Alors, il ne s'agit pas de faire pousser les cheveux, de prendre une toge, d'avoir des sandales. Hein. Ce n'est pas de ça qu'on parle de revêtir Christ. Ce n'est pas un déguisement. Hein. Celui qui a revêtu Christ, c'est celui qui laisse Christ rayonner à travers lui. Qui, par l'Esprit de Dieu, se met à agir comme Christ, penser comme Christ, respirer Christ, on pourrait dire. Vivre pour Christ, il peut dire, comme dit Paul, pour moi, la vie, c'est le Christ. Voilà le résumé de ma vie. Christ est ma vie. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire par nos propres forces. Hein, et c'est pour ça que le Christ nous a laissé un cadeau incroyable qui est son Saint-Esprit, l'Esprit du Père et du Fils, l'Esprit du Christ. En nous, comme on l'a chanté tout à l'heure, Esprit du Dieu vivant. Et si nous mettons notre foi en Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit du Christ vient vivre en nous, et c'est seulement par cet Esprit-là que nous pouvons agir et vivre comme Christ. Sa lumière brille déjà en nous. Il faut s'en souvenir. L'Esprit du Christ est en nous, on l'a vu ces derniers jours, nous sommes un peuple prophétique, l'Esprit de Dieu vit en nous. On parle de Dieu, là, hein, vous savez, le créateur de l'univers, le Tout-Puissant, celui qui est venu en Jésus-Christ donner sa vie pour nous sauver, il est là, en nous, par son esprit, au milieu de nous, avec nous. C'est quand même extraordinaire. Alors lorsque nous nous réveillons le matin, ou là, ceux qui sont endormis, quand nous allons au travail, lorsque nous sommes en famille, lorsque nous travaillons, lorsque nous discutons, lorsque nous mangeons, lorsque nous jouons, lorsque nous dansons. Rappelons-nous à chaque instant que l'Esprit du Christ habite en nous. À chaque instant, on peut dire « Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Prends toute la place en moi, que ta paix, que ta joie, ton amour, ton espérance vont rayonner à travers moi. Viens inspirer mes paroles, mes actes. Viens transformer ma façon de penser. » On a vu, le Saint-Esprit veut collaborer avec nous. Dieu veut collaborer avec nous et donc il ne va pas forcément s'imposer à nous. On doit aussi montrer une ouverture et être conscient de ce qu'il est là, qu'il veut nous utiliser. Voilà comment on peut être ces éclaireurs de la nuit. Je pense qu'il y aurait plein d'autres choses à dire, mais j'espère que ça vous laisse quelques pistes de réflexion et surtout, ça vous donne envie d'être ces témoins du jour. Ces témoins du jour. Voilà comment on pourra porter ce message d'espérance. Voilà comment on pourra faire entrevoir le jour qui vient à ceux qui nous entourent. Si on place la lumière du monde au cœur de notre vie, Jésus-Christ. Alors demain, lorsque vous entendrez le réveil sonner pour aller au boulot ou je ne sais pas où, aux études, quand vous entendrez le réveil sonner et que vous verrez l'heure qu'il est, pensez à vous rappeler aussi de l'heure qu'il est sur l'horloge divine. Et lorsque vous vous réveillerez, que les tracas du quotidien commenceront à envahir votre pensée, dites au Saint-Esprit qui vit en vous, viens prendre toute la place dans mes pensées, viens renouveler mon intelligence. Lorsque vous enlèverez votre pyjama pour revêtir vos habits du jour, pensez à revêtir le Seigneur Jésus-Christ. Dites au Saint-Esprit qui vit en vous, sois le bienvenu, je veux bien faire briller Christ à travers moi. Dites à votre Seigneur, je veux vivre cette journée pour toi. Je ne veux pas vivre dans la nuit, mais revêtir ta lumière. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Ça, c'est la vraie vie. C'est ça. Voilà, c'est un truc qu'on peut faire tous les jours. C'est bien parce qu'on se lève tous les jours normalement. Rappelons-nous de cela. Je vous invite à prier. Et peut-être que, aussi pour répondre à la parole de Dieu, je pense que c'est toujours bien aussi de faire un geste, de répondre à la parole. Si vous le souhaitez vraiment, si vous êtes convaincu que la parole de Dieu vous invite à être ces témoins du jour qui vient, ces témoins de la lumière dans ce monde et que vous dites oui, je veux répondre à cet appel en tant que chrétien, normalement qui nous concerne tous, hein, mais voilà, si vous n'êtes pas convaincu, c'est pas grave, mais j'espère que vous le serez un jour. Mais si vous voulez répondre à la parole de Dieu, peut-être que vous pouvez simplement vous lever à votre place, on peut se lever, si vous le souhaitez, à votre place pour dire « Oui, je veux être ce témoin du jour qui vient. Je veux être le témoin du Christ par ton Saint-Esprit. » C'est une manière de dire « Oui, Seigneur, je me tiens debout par la grâce de Dieu. » Prions. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous reconnaissons nos faiblesses. Nous reconnaissons, nous ne sommes pas toujours tout à fait à la hauteur. Notre vie n'est pas toujours si glorieuse et témoin de ta lumière. Et Seigneur, nous te demandons pardon pour cela. Et Seigneur, nous te demandons ta grâce, parce que c'est que par ta grâce que nous pouvons être debout là devant toi, sauvés par toi, rachetés par toi. Nous n'avons rien pu faire pour mériter ton amour pour nous, Seigneur. Pour recevoir ton esprit, pareil, Seigneur, on n'a rien fait pour le mériter. C'est une grâce énorme que tu nous donnes, Seigneur. Et nous te disons merci. Et Seigneur, nous te disons aussi que nous voulons répondre à ta parole et dire oui, nous voulons être tes témoins du jour qui vient dans ce monde, tes témoins de la lumière, tes témoins de ton amour, tes témoins de qui tu es, de ce que tu veux faire pour nos proches, nos contemporains, nos familles, nos collègues, ceux à qui nous voyons tous les jours, ceux qui viennent à la maison des parents, ceux qui entrent dans cette église. Seigneur, nous voulons être des témoins du jour, alors utilise-nous. Fais de nous tes ouvriers, fais de nous tes soldats pour le bien, pour l'amour, Seigneur. Viens encore utiliser aussi cette église, Seigneur, qui a déjà beaucoup été utilisée par toi dans ce témoignage, dans la cité, dans l'église, dans ce qui est autour, Seigneur, que ce centre Martin Luther King puisse être témoin de Jésus-Christ par la manière dont il fait le bien dans ce monde. Et que c'est les conséquences, Seigneur, pour la ville, que ça puisse se voir, qu'il y ait des choses qui changent, Seigneur, et que les foules puissent venir reconnaître que soit tu es la lumière du monde, leur lumière, leur sauveur, leur Seigneur, à travers cela. Oui, Seigneur, nous prions que tu viennes encore nous réveiller et que chaque matin tu le fasses de notre vie, que tu nous rappelles chaque matin que ton esprit vit en nous et que nous sommes appelés à être ces témoins de toi et de ta parole autour de nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen.